Dear fellow feminists,
I'm here for all of the witches.
Pourquoi le féminisme?
On ne sait plus rien faire, on ne veut plus rien dire.
Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes.
Oh, je t'avais dit, elles en veulent au mec.
Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur.
On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné.
Il y a un problème avec monsieur.
Non, il n'y a pas de problème.
Vous aussi, on se lève et on se bat.
Pas du clito.
Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse.
Bim, c'est encore la faute du patriarcat.
Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute.
Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission d'On se lève et on se casse. Alors pour cette cinquième émission de la troisième saison, dans le climat actuel, je me suis dit qu'on allait parler d'un sujet à la fois politique, un sujet important dans le monde intellectuel, mais qu'on allait aussi parler de quelque chose qui m'aide à apprendre d'une manière un peu plus légère, plus agréable que l'essai féministe sur ma table de chevet. Est-ce que vous avez deviné de quoi j'allais parler? Non, eh bien je ne parle de bande dessinée. Moi, la bande dessinée m'a aidé à aborder plein de sujets auxquels je ne connaissais que très peu de choses. Par exemple, quand notre chroniqueuse Chloé a commencé à nous parler de mythes antiques, j'avais pas trop le temps de m'épancher sur le sujet, mais je voulais en savoir plus, alors j'ai commencé à lire une BD. Pour toutes les personnes qui rentrent ces dernières années dans les idées féministes, depuis plusieurs années, les librairies regorgent de plus en plus de BD, de romans graphiques féministes. Parfois, ce sont des approches historiques, biographiques, fictionnel, non fictionnel, autobiographique, les angles sont divers, les manières de les illustrer aussi, et toutes ces créations permettent d'inviter de plus en plus de monde dans les idées féministes, et même de plus en plus jeunes. Alors pourquoi la BD est-elle un médium clé pour le féminisme? Qu'est-ce que les BD féministes racontent de comment les gens apprennent et se cultivent? Que racontent les BD féministes et comment? C'est à ces questions que nous allons répondre et bien d'autres.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Ce soir, nous sommes avec une autrice d'une BD qui est à la une de beaucoup de librairies féministes ou non. Nous sommes donc avec Erel Anna. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes autrice sur plusieurs formats et depuis 2021, vous faites surtout de la BD. Et en juin 2023, vous avez publié la BD « Ils abusent grave » en collaboration avec l'illustrateur Fred Cham, une BD qui est publiée aux éditions Les Insolentes Hachette. Vous y racontez plein de choses, beaucoup de questions différentes y sont abordées. Des questions, je pense qu'en tant que femme de nos différents âges, on s'est toutes posées peut-être à un moment de notre vie. Par exemple, pourquoi les psychopathes des séries TV sont-ils si séduisants, pardon? Pourquoi les hommes ont-ils moins d'empathie que les femmes? C'est quoi la fuck zone, vraiment? Et la cellulite, est-ce que c'est une invention misogyne? Oui, c'est très varié, mais c'est très bien rangé. En couvrant tout un tas de sujets qui nous traversent l'esprit plus ou moins à toute vitesse, on apprend plein de choses nouvelles. Alors avec vous, on va parler de cet ouvrage, bien sûr, de votre parcours aussi, mais aussi du rôle de la BD, notamment dans la diffusion des idées féministes. Donc comme je le disais, votre BD, elle traite de beaucoup de choses différentes. Vous parlez notamment donc du développement de l'empathie chez les hommes, une grande question de la représentation des psychopathes et de la violence dans les relations de manière romantisée ou très glamourisée dans les films et les séries, notamment sur Netflix. En ce moment, c'est la grande tendance. Vous parlez de la police, de leur manque d'empathie, des procédures bâillons, de comment ça fonctionne, de quel est le problème avec ces procédures bâillons-là et de la justice à double vitesse sur certaines procédures et pourquoi elles ne devraient plus exister dans les affaires de violence sexuelle, notamment plein d'autres choses. Et à chaque fois, vous développez chaque sujet. Vous les étayez avec beaucoup de sources scientifiques, de recherches, de chiffres, d'essais. Et c'est une BD qui est très généraliste, mais qui reste donc très précise. Première question, pourquoi est-ce que vous avez... Donc vous avez différents diplômes, et en 2021, vous décidez de vous lancer dans la BD. Pourquoi est-ce que vous décidez de traiter de ces sujets-là, de ces questions très diverses, par une BD?
Alors,
À la base, je traitais déjà de ces sujets-là sous d'autres formats, et notamment sous format d'articles. Mais c'est vrai que même mes articles, je faisais pas mal de blogs. Je faisais aussi de la tribune politique parfois. Mmh. Et dans le blog, je pensais souvent de manière assez imagée. C'était une époque, à cette époque-là, dans les blogs, on mettait pas mal de gifs. Mmh. Et donc, je pense que j'avais toujours eu une alternance entre du texte et de l'image ou des blagues. Et ça, c'était un choix que j'ai fait dès le départ parce que j'abordais souvent des sujets qui étaient difficiles. Pour les personnes qui allaient lire le sujet, mais même difficile pour moi aussi à traiter. C'est des sujets avec une forte charge émotionnelle. Et donc, c'est plus facile pour moi de les aborder avec un angle... En fait, avec des respirations humoristiques, on va dire. Et après, je pense que j'ai aussi une tendance assez naturelle à penser de manière imagée. Mmh. Et donc, quand mon ami Fred Cham, qui lui faisait du blog BD à côté, m'a proposé d'illustrer des notes de blog, j'ai accepté pour voir ce que ça donnait. Mais j'avais pas prédéterminé de faire de la BD à ce moment-là. Et en fait, en commençant à travailler ensemble, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, en fait, comme format.
Mmh. Et pour vous, quand vous avez commencé à travailler sur ces questions-là, qui sont donc quand même des questions essentiellement féministes, dans cette BD-là en tout cas, est-ce que vous aviez l'impression que la mise en scène visuelle, ça permet d'aborder les choses différemment et peut-être d'une manière plus accessible que juste un texte seul ?
Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a plusieurs aspects à cette question, parce que... en fait, la BD, comme dans une certaine mesure le podcast, c'est quelque chose aussi qui est accessible à faire quand on a peu de moyens. en fait, contrairement à un film, une série ou d'autres choses, ou même un documentaire où on va souvent aller interviewer des gens ou des choses comme ça. En fait, là, moi, j'ai ce pouvoir avec la BD de faire absolument le casting que je veux. Je suis chez moi, si je veux recruter Timothée Chalamet, je peux. et en fait, quand on n'a pas beaucoup de moyens et qu'on débute, ça offre une liberté extraordinaire de pouvoir aborder les sujets qu'on veut sous l'angle qu'on souhaite. Donc il y a déjà ce point-là. Et après, sur le fait d'aborder des sujets difficiles comme les VSS, les violences sexistes et sexuelles, la BD par rapport à des formats qui ont recours à des vraies personnes, à des acteurs, à des films, des documentaires, rajoute une couche de fiction. Qui permet aussi de mettre à distance les sujets qui peuvent être compliqués. Et moi, je trouve que ça les rend plus faciles d'accès aussi.
Il y a beaucoup de critiques du format. Enfin, il y a beaucoup de critiques. Il y a certaines critiques du format BD qui se demandent pourquoi, par exemple, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers les BD plutôt que vers les essais féministes pour traiter de ces questions-là. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de BD maintenant qui traitent de questions sociologiques, de questions de genre, d'un point de vue féministe. Et qui se demandent pourquoi les gens se tournent plus vers la BD que vers les essais. Est-ce que vous y avez réfléchi ? Est-ce que pour vous, c'est un peu logique que ça rende un peu plus accessible des textes qui sont hyper nombreux en librairie ? Ça prend beaucoup de place maintenant, mais peut-être pas accessible à tous ?
Alors, je pense qu'il y a cette question de la mise à distance dont je parlais auparavant, mais il y a effectivement aussi la question de l'accessibilité. Et bah, je ne sais pas pour les autres, mais je vais parler pour moi. Moi, il y a plein de sujets qui m'intéressent, mais où en fait, ils ne m'intéressent pas suffisamment pour que j'aille lire un essai spécialisé sur le sujet. Je trouve qu'on peut s'intéresser, en tout cas, moi, je peux m'intéresser à peu près n'importe quel sujet pour une heure, à peu près. Ouais.
C'est ce que la BD dit en introduction, que vous vous intéressez à beaucoup de sujets.
Oui, voilà. Oui, bon, après, les sujets que je traite, en général, j'y passe quand même un peu plus d'une heure à faire les recherches. Mais admettons justement sur les sujets que moi, j'ai pas envie, sur lesquels j'ai pas envie de faire de recherche. Je sais pas, je vais prendre un exemple sur le cyclisme chez les femmes, par exemple. C'est pas du tout un sujet qui me passionne. Mais en revanche, s'il y a quelqu'un qui s'est passionné sur ce sujet suffisamment pour écrire une BD là-dessus, je sais que ça va pas me prendre beaucoup d'énergie et qu'en une heure, je vais avoir, sans faire beaucoup d'efforts, accès à plein d'informations sur ce sujet-là. Et à une époque où on est de plus en plus sollicité aussi au niveau de notre attention, on a une surcharge informationnelle constante, c'est difficile de trouver du temps et de l'énergie pour se lancer dans des lectures qui peuvent être très ambitieuses intellectuellement.
Parfois arrive.
Et donc, en fait, je trouve que c'est un format qui est assez idéal pour à la fois pas consommer du... contenu un peu poubelle, ou genre des chats qui pètent, quoi, pendant 3 heures sur TikTok. Et de l'autre côté, à l'autre extrême du spectre, se farcir un essai extrêmement spécialisé. Mmh. Et je trouve que là, on est vraiment à l'entre-deux. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'aime consommer. Donc, je pense que c'est aussi ce que j'aime produire.
Ouais, c'est vrai que c'est un bon entre-deux de nos jours. Comme vous le dites, la surcharge informationnelle est tellement énorme en ce moment qu'on a éventuellement tendance à doomscroller beaucoup. Donc doomscroller, ça veut dire scroller à l'infini, voir des trucs horribles sur Instagram pendant des heures. Et c'est vrai que c'est... j'y avais pas pensé comme ça, mais c'est un bon entre-deux. Pour vous, est-ce que... est-ce que la BD féministe utilise des codes graphiques ? Alors, la BD féministe, elle, utilise des codes qui reposent sur l'humour, la simplicité. En tout cas, il y en a beaucoup. Et parfois, au contraire, ça repose sur des représentations qui sont dures, qui sont crues, ça dépend des styles. Vous, votre approche visuelle, j'ai l'impression, vous allez peut-être m'arrêter, ça traite de choses très factuelles. Vous prenez des cas qui existent. Comment vous avez choisi votre approche des sujets ? Est-ce que ça vous venait dans votre esprit et vous pensiez au sujet qui vous intéressait et vous vous dites, bah voilà, je me suis posé cette question, donc je vais y répondre de la manière dont j'aurais aimé qu'on me réponde, voilà. Ou vous pensez à une pédagogie en particulier ?
Alors, comme je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais je pense que moi, le fait d'aborder les choses avec l'angle de la simplicité et de l'humour, c'était notamment pour me protéger, moi. Mmh. Parce que j'ai abordé des sujets quand même vraiment très difficiles. J'ai abordé à de nombreuses reprises la pédocriminalité ou les peines de prison pour femmes ou des choses comme ça. Et en fait, le sujet est tellement tragique en lui-même que si je l'aborde en plus avec une lunette un peu triste ou purement factuelle, pour moi, c'est trop dur. Ouais. Donc, j'ai besoin de me préserver. Mais je trouve ça très intéressant qu'il y ait aussi des BD qui fassent le choix d'aborder les choses de manière peut-être parfois plus crue ou plus froide ou plus tragique, parce que les VSS, c'est tragique.
C'est donc tragique.
Y a aussi la place pour des BD qui ont ce ton-là. Mmh. Et je sais qu'il y a une question que je me pose pas mal aussi, c'est la charge traumatique qu'il y a quand on parle de ces sujets-là. Parfois, c'est intéressant de parler des VSS, de les montrer, notamment pour les gens qui ne les ont pas vécues, pour faire comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, quel écho ça fait dans un corps, quelles conséquences ça a dans une vie. Mais en même temps, par ailleurs, les personnes qui les ont vécues, ces violences-là, elles n'ont peut-être pas envie d'y être reconfrontées. Et en fait, moi, c'est une question que je me pose beaucoup, notamment quand je parle de VSS, c'est est-ce que je vais les représenter ? Et j'ai toujours un petit peu ce questionnement de j'ai envie de sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas le sujet, tout en préservant les personnes pour qui ça peut être trigger. Et je trouve qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait, à cette question. Je trouve qu'il y a des mauvaises manières d'y répondre, en revanche, il y a des mauvaises solutions, mais en revanche, il y a plein de solutions différentes qui peuvent être tout aussi justifiables les unes que les autres.
Donc vous prenez un peu au cas par cas, j'imagine, selon les histoires que vous racontez, selon les...
Alors moi, je crois que j'opte assez résolument pour le ton de l'humour. Je montre très très peu les VSS. Je fais souvent des ellipses où je fais de la voix de narration. J'opte plutôt en général pour le fait de ne pas les montrer. Mais je respecte tout à fait les gens qui font un choix différent. Et je trouve ça très intéressant aussi.
Et donc, comme je le disais, maintenant, les librairies... présente de plus en plus de BD engagées, notamment féministes, mais pas que. Parfois, c'est sur la question du travail, du chômage, de l'économie, de certains points de vue. Est-ce que vous avez l'impression, de votre point de vue en tant qu'autrice, dans la BD notamment, mais pas que, qu'il y a un tournant qui est en train de se faire dans l'industrie de la BD où c'est peut-être un peu fort pour l'instant ? Peut-être qu'on n'y est pas encore tout à fait.
J'ai l'impression qu'il y a un boom dans la BD, que ça se diversifie.
Ouais.
Je pense qu'au niveau... Il y a de plus en plus de contenu féministe, notamment depuis MeToo, où il y a une vraie... Mais ça, c'est pas que dans la BD, c'est dans tous les médiums. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une appétence grandissante pour les contenus un petit peu intellectuels, vulgarisés. Donc oui, à la fois dans les contenus engagés et puis dans les contenus militants et aussi dans les contenus scientifiques, je pense que oui, il y a un tournant.
Et ça a été quoi la réception de votre BD dans les milieux féministes et dans le grand public ? Est-ce que vous avez été surprise par des réactions? C'était plutôt...
Je pense qu'on a été surprise du succès que, que ça a eu. On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien, donc ça, c'est chouette. Et après, dans les réactions surprenantes, je pense que je continue à être surprise, notamment en festival, du nombre d'hommes qui viennent m'acheter ma BD en me disant que c'est pour leur femme, leur fille, leur nièce. Et je me dis, ils devraient la lire, en fait, parce qu'ils n'ont pas compris le principal.
C'est ça, toujours
ça continue
le...
à me surprendre. Ouais,
c'est toujours le même problème. Pour l'instant, ils ne se sentent pas hyper concernés par ce genre de truc. On va faire une petite pause chronique car je vois l'heure passer, j'ai un timing à tenir et donc voilà. C'est l'heure d'accueillir la première chroniqueuse de l'émission, Chloé. Salut Chloé.
Salut Pauline.
Salut. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de BD dans l'Antiquité. Alors Chloé, de quel mythe tu vas nous parler cette fois-là?
Alors oui, comme tu le dis, le mythe dont je vais vous parler ce soir n'inclut pas de bande dessinée. Mais il inclut une création tout aussi visuelle qui est la tapisserie. Donc c'est par cet art que la princesse Philomèle dénonce les violences dont elle est victime.
Tu peux nous raconter ?
Oui. Dans les Métamorphoses, le poète Ovide raconte l'histoire de Philomèle et Procné, ces deux sœurs qui sont très proches. Enfin, elles sont très proches jusqu'à ce que Procné parte épouser Térée, le roi du pays voisin. Après 5 ans, elle demande à son mari d'aller prendre des nouvelles de sa sœur qui lui manque. Térée, qui ne peut rien refuser à sa femme, va chercher sa belle-sœur, mais il la trouve à son goût et sur le chemin du retour, il la viole, l'enferme et lui coupe la langue pour éviter qu'elle ne le dénonce. Il rentre ensuite chez lui et annonce à sa femme que, malheureusement, sa sœur est morte. Procné, bien évidemment, est dévastée. Mais Philomèle n'est pas morte et elle n'est pas non plus sans ressources. Enfermée, elle tisse pendant 12 mois une tapisserie dans laquelle elle dénonce tout ce que Térée lui a fait. Elle parvient à faire parvenir cette tapisserie à sa sœur, qui comprend tout. Procné vient alors délivrer Philomèle et ensemble, elle retourne chez Térée pour se venger. Donc dans ce mythe, on voit que Philomèle, réduite au silence littéralement par son bourreau, a trouvé dans le tissage un moyen de témoigner qui lui a permis de prévenir sa sœur sans que personne ne se méfie.
Et donc du coup, mais pourquoi personne ne se méfie? Parce que le tissage, à cette époque, c'est vu comme une affaire de femme?
Oui. Tout à fait. En fait, dans la Grèce antique, tisser, c'est l'activité par excellence des femmes, et surtout des femmes nobles. Ce n'est pas une activité masculine, ce n'est pas un art majeur, mais ce qui est censé être un passe-temps féminin inoffensif est détourné par Philomèle et devient un moyen de dénoncer l'indicible. Mais le récit ne se termine pas sur la libération de Philomèle. Donc je vous parlais de la vengeance des sœurs, elle est vraiment terrible. Donc Procné tue le fils qu'elle a eu avec Térée et le sert à manger à son père, c'est un peu un classique dans les mythes grecs. Lorsque Térée découvre qu'il vient de manger son fils, il est fou de rage et il s'élance pour tuer les deux sœurs. Mais elle lui échappe en se transformant en oiseau, donc Philomèle en hirondelle et Procné en rossignol. Ovide dit que de cette manière, Procné garde les marques de son crime avec son jabot rouge sang. Donc on voit que le mythe se clôt sur l'horreur d'un meurtre d'enfant et la transformation de deux femmes en oiseaux, donc avec un chant mélodieux, inoffensif, comme si leur désir de justice et de réparation ne pouvait qu'aboutir à un échec. Et ce constat, c'est aussi celui d'un autre mythe autour du tissage que j'aime beaucoup. Donc dites-moi si vous voulez en savoir plus.
Bah, je veux bien, vas-y.
Alors c'est encore Ovide qui nous parle d'Arachné, une jeune fille réputée pour son exceptionnel talent de tisserande. Mais pour elle, les louanges qu'on lui fait sur son art ne sont pas suffisantes. Elle se prétend l'égale de la déesse Athéna et la défie dans un concours d'habileté. Donc dans ce concours, Athéna tisse une tapisserie qui dépeint les dieux de l'Olympe dans toute leur grandeur. Et elle ajoute, pour faire bonne mesure, 4 récits d'humains punis pour avoir osé défier les dieux. De son côté, Arachné, elle, dépeint tout simplement des dizaines de viols d'humaines commis par les dieux en toute impunité. Donc Europe enlevée par Jupiter, Léda, Danaé, etc. Et cette toile est si réunie qu'Athéna s'en irrite, elle la déchire et transforme Arachné en araignée, condamnée à passer ses journées à tisser dans l'ombre. Donc oui, c'est une punition injuste, mais moi je me demande si c'est pas plutôt une bénédiction déguisée, puisque Arachné peut à présent passer ses journées à faire ce qu'elle aime, en toute liberté et sans risque de se faire agresser par un dieu.
Ok, mais être transformé en oiseau ou en araignée pour avoir dénoncé des crimes, c'est quand même pas très encourageant comme conclusion.
Effectivement, ces mythes soulignent les limites de ces rébellions. Donc des cris de dénonciation et de rage qui sont transformés en pépiments inoffensifs, des taches de sang qui se transforment en mignon petit plumage. Et il vaut mieux être discrète sur son talent et rester sagement à sa place à tisser entre les quatre murs du gynécée. Mais ces récits montrent aussi que, quoi qu'il en coûte, il y aura toujours des femmes déterminées à dénoncer les abus des puissants et qu'elles trouveront toujours les moyens de s'exprimer, même si on tente de les faire taire. Par ailleurs, dans le mythe de Philomèle et Procné, on trouve peut-être une piste pour sortir de l'impasse, et cette piste, c'est celle de la sororité. Philomèle ne tisse pas son message au hasard, c'est à sa sœur qu'elle l'envoie. Seule, elle est impuissante, ensemble, elles deviennent redoutables. J'y vois une leçon. Notre force ne peut reposer que sur une alliance entre celles qui s'expriment et celles qui écoutent, qui croient et qui répondent. Ces récits permettent avant tout de tisser des liens forts entre nous. Et d'ailleurs, le mot « texte » vient du latin « texere » qui signifie « tisser ». Ce qui signifie que tous les textes, tous les récits trouvent littéralement leur origine dans le tissage. Bref, pensez-y la prochaine fois que vous serez sur votre broderie. Ce sont des armes de libération massive, bien moins anodines qu'on voudrait nous le faire croire.
Chloé, présidente, merci. Toujours de si belles conclusions. Merci Chloé.
On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Vous écoutez toujours On se lève et on se casse, l'émission des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM en direct. Et nous sommes donc ce soir avec Erel Hanna, qui est l'autrice, la co-autrice de Ils abusent grave, une BD aux éditions Hachette. Donc dans cette BD, Ils abusent grave, vous mettez en scène des situations notamment de violence sexiste et sexuelle, mais pas seulement. Beaucoup d'expériences, d'expériences réelles qui ne sont pas vos expériences, mais qui sont des cas pratiques, j'oserais dire. Je ne sais pas si vous le décririez comme ça. Comment vous le décririez ?
Je suis pas sûre de comprendre cette question.
C'est pas une question encore. J'allais y venir, mais en tout cas, en fait, ce que je voulais dire, c'est vous traitez de plein de choses, du traitement des psychopathes dans la pop culture, notamment de la glamourisation des hommes violents, des procédures Bayon par le traitement des procédures Bayon par les médias divers. Comment vous sélectionnez ces thèmes que vous choisissez ?
Ah ok. En général, c'est souvent en partant d'une actualité. Il y a quelque chose. Enfin, je vois passer une actualité qui m'interpelle sur quelque chose que je ne comprends pas, et je commence à faire des recherches. Parfois, c'est aussi comme j'ai une espèce de veille, je vais dire, un petit peu sur les sujets féministes, ou que je suis curieuse, et des fois je pars dans les tréfonds de la recherche de Wikipédia, enfin en partant des fois de Wikipédia, et puis parfois après en allant dans les recherches des sites de recherche un peu plus spécialisés, je tombe sur une étude qui m'intéresse, qui a un angle inédit par exemple. Mais je pense que oui, souvent je me pose en fait les mêmes questions que beaucoup d'autres personnes, mais simplement après je creuse un peu la question, notamment en allant chercher la parole des spécialistes qui se sont vraiment intéressés sur ces sujets beaucoup plus longuement que moi, quoi.
Et avec votre illustrateur Fred Cham, comment vous organisez pour décider de comment vous allez représenter tel ou tel thème, de ce que vous allez faire pour dessiner ça ? Parce que vous êtes vraiment l'autrice, si je comprends bien la division de l'équipe. Vous êtes l'autrice et lui, il complète et il illustre vos propos, c'est ça ? Vos recherches, vos questionnements.
Oui, déjà ça a évolué un peu dans le temps, je pense, au fur et à mesure de notre collaboration. Mais à l'heure actuelle, en fait, on a vraiment une méthode de travail en trois temps. D'abord, je commence par écrire le scénario. Qui est déjà prédécoupé sous forme de cases, et en fait dans chaque case il y a écrit ce qu'il y aura en voix off s'il y a une voix off, la description de ce qui se passe dans la case avec le décor, les personnages, aussi parfois à quelle distance on est, est-ce que c'est un gros plan, un plan éloigné, un plan américain, etc. Des indications sur les humeurs des personnages, et puis le contenu des dialogues en fait. Donc ça je fais un prédécoupage comme ça. Ensuite on a vraiment une phase de collaboration sous forme de storyboard où on se retrouve tous les deux. Et en fait, parce qu'en fait, c'est quand même souvent assez succinct. J'écris pas un roman dans chaque case. Et donc, je complète parfois, s'il a des questionnements
sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans chaque case, et on fait ensemble un storyboard avec des bonhommes patates pour être sûr de s'être bien compris de qu'est-ce qui est où dans la case. Il me fait aussi des suggestions à ce moment-là. On discute de est-ce que le rythme il est bon, est-ce que là il y a une redite, est-ce qu'au contraire il manque des explications. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur le storyboard, c'est lui qui travaille tout seul en faisant le dessin.
Ok, et donc du coup les idées des thèmes que vous traitez, elles viennent uniquement de vous, ou est-ce que lui il fait ses suggestions aussi?
Non, il fait pas de suggestions. En revanche, c'est plutôt qu'il fait du tri parce que j'ai beaucoup d'idées de thèmes et le temps n'est pas infini, et donc c'est aussi ce qui va l'inspirer lui et ce qui le fait rire. Voilà, le tri se fait parfois un petit peu comme ça.
Ok. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous choisissez un ton, un humour qui est là, qui est présent, qui est parfois un peu cru, très direct. Et c'est un ton qu'on retrouve donc régulièrement dans les BD féministes. Il y en a qui sont plus fictionnels et qui jouent plus sur l'histoire de la métaphore, qui racontent des histoires ou qui sont biographiques, mais qui sont plus dans la métaphore et plus dans l'image. Est-ce que vous avez trouvé une sorte d'équilibre et une sorte de sens dans le fait d'aller dans l'humour choc, et vous vous dites que ça rentre mieux dans les esprits peut-être, ou que c'est plus pédagogique ou alors c'est juste votre ton et c'est possible aussi?
Oui, alors déjà je pense qu'effectivement j'ai un ton particulier peut-être, mais ça dépend aussi sur quel projet je travaille. Ils abusent grave, c'est de la vulgarisation, mais là par exemple j'ai un roman graphique qui est en train d'être illustré, j'ai pas le même ton dans ce roman, et je pense qu'on est plusieurs comme ça à circuler entre différents formats. Je sais que c'est le cas de Myrion Mal aussi, qui a commencé avec des BD très didactiques, très pédagogiques, et qui après s'est lancé dans des choses plus fictionnelles, et je pense que ce sont des exercices très différents, et on peut vraiment avoir plus une facilité pour l'un que pour l'autre. Moi, c'est mon cas, j'ai plus de facilité pour faire de l'explication, de la pédagogie rigolote que de la trame narrative, surtout sur des longs formats. Mais j'ai eu envie quand même de me confronter à ça, c'était un gros challenge pour moi. Et je pense que je vais sans doute alterner entre ces différents types de formats, sachant qu'il y en a un qui m'est beaucoup plus facile que d'autres, donc ça me demande aussi beaucoup moins de temps et d'énergie en fait.
Vous pensez que les bénéfices sont différents, égaux entre les deux, par rapport au public, au message que vous faites passer?
Oui, effectivement, je pense que ça apporte pas la même chose. En tout cas, moi, quand je lis une fiction, souvent, ça me permet de connecter avec des émotions, d'avoir une reconnaissance, une communauté d'expérience, en fait. Je lis quelque chose et je me dis, oh là là, ça fait... Enfin, je me dis pas, je ressens, en fait. Je ressens, ça me parle, ça fait écho avec des choses que j'ai moi-même vécues. Ça vient pointer... ça joue dans le registre de l'émotionnel, alors que quand je lis quelque chose de plus pédagogique, ça m'aide à articuler des idées, des concepts qui me permettent de mieux comprendre le monde. Et c'est pour ça que je trouve que les deux s'articulent bien, en fait.
Et donc, dans cette BD aussi, on voit que vous faites des résumés de phénomènes systémiques, les procédures Bayon, l'invention de la séduite comme quelque chose en trop chez les femmes, comme un truc complètement misogyne et inventé de toutes parts. Du coup, vraiment, dès le début, vous aviez choisi de traiter de plein de choses différentes, mises bout à bout, parce qu'en fait, vous avez commencé sur Instagram ou sur un blog, c'est ça que vous disiez?
Sur un blog.
Et ensuite, sur Instagram, est-ce que...
Oui.
Est-ce que Instagram, c'est quelque chose qui permet de détourner peut-être une sorte de blocage du monde de l'édition, peut-être, pour traiter ces sujets-là?
Alors moi, à la base, j'ai vraiment commencé par le blog. Parce que j'ai presque 40 ans et du coup Instagram c'est pas ma génération en fait. À l'époque j'étais sur Facebook et sur Google+, parce que ça existait encore à l'époque. Effectivement, les réseaux sociaux me servaient à diffuser ce que je faisais sur le blog, mais j'avais aucune velléité d'être éditée à cette époque-là. Ouais. J'avais envie de diffuser mes idées à un cercle moins restreint que les personnes qui lisaient du blog féministe. Et ensuite, j'ai rencontré une amie plus jeune que moi qui m'a parlé d'Instagram, qui m'a dit « Ah, mais en fait, c'est incontournable quand on fait de la BD Instagram. » Pour moi, Instagram, c'était vraiment un réseau sur lequel les gens y mettaient les photos de leur brunch.
À l'époque, c'était ça.
Ouais, mais je savais pas que c'était aussi un endroit où on pouvait trouver du contenu, notamment politique, intéressant. Et c'est vrai que moi-même, je me suis abonnée à plein de contenus sur Instagram. J'apprends plein de choses, et notamment sur des sujets un peu engagés, avec des angles un peu spécifiques, un peu spécialisés. J'étais vraiment la première surprise, mais je trouve ça très intéressant.
Eh bien, tant mieux. Moi, je me demandais si c'était vraiment une manière de... Enfin, si Instagram, c'était... On verra ça un peu plus tard, mais si Instagram, c'était une manière de... Ouais, de contourner des blocages. Mais comme vous le dites, peut-être que vous, c'était juste une question de contexte à ce moment-là, quoi.
Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui sur le rapport entre les éditeurs et Instagram et les problématiques que ça pose, notamment pour les nouveaux auteurs et autrices. Moi, ça n'a pas été mon cas dans ma trajectoire personnelle. C'est-à-dire que... Je sais que ça fait un peu genre success story, un peu chelou, mais honnêtement, moi, c'est les éditeurs qui sont venus me chercher et j'étais étonnée. Je m'attendais pas à avoir un tel succès, je m'attendais pas à ce qu'on vient de me chercher. Mais j'ai conscience que c'est... que j'ai été privilégiée dans cette trajectoire et qu'on peut pas reposer là-dessus. C'est pas un conseil qu'on peut donner aux gens qui ont envie de réussir de cette manière-là. Ça serait trop reposer sur la chance, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on a envie de diffuser ses idées et si on a envie de commencer et de se lancer, les réseaux sociaux, ça s'y prête. Les blogs, les réseaux sociaux, etc., ça permet une facilité de production qui n'est pas permise par d'autres réseaux ou formats. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais il y a une vraie problématique par ailleurs, du fait que maintenant les éditeurs classiques utilisent le travail gratuit des personnes qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux et ils s'en servent un peu comme un vivier d'auteurs plutôt que de les accompagner dans leur début. Ils laissent les gens vraiment commencer tout seuls, faire leurs preuves, etc. Et une fois qu'ils ont fait leurs preuves, c'est-à-dire qu'ils ont déjà pris du niveau, qu'ils ont déjà des followers derrière eux et tout, ils viennent faire leur marché. Et ça, il y a une vraie problématique derrière, je pense notamment au niveau de la reproduction sociale. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, je travaillais à temps partiel, j'ai pas d'enfant. Ça m'a laissé l'opportunité de faire de la BD sans être rémunérée. C'était pas mon plan de carrière. Je n'attendais pas qu'on me paye pour ça. Et si je sortais d'école de BD et que, en fait, j'avais aucun revenu et que j'attendais justement des revenus pour pouvoir continuer la BD, c'est un système qui est pas viable du tout. Et donc ça, c'est problématique.
Tout à fait. On en reparlera un peu plus tard. Là, c'est l'heure de faire une courte pause musicale avec un titre un peu plein de joie électro qui s'appelle Mes copines, de l'artiste doublement récompensé cette année aux Victoires de la musique, Yoa.
Moi et mes copines, on est comme des sœurs. À chaque fois qu'un mec nous le prise, on se met des pansements sur le cœur. Avec mes copines, on voit pas passer les heures. Et si on n'a plus rien à dire, c'est nous qu'on invente les rumeurs. Mes copines sont aussi armées que le plus grand des soldats. Et quand la vie me fait tomber, elle me relève à chaque fois. Avec mes copines, j'ai l'impression d'être au cinéma, pour vivre une grande histoire d'amour qui jamais ne s'arrêtera. Mes copines sont des superstars, des superstars. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Moi et mes copines, moi et mes copines, oh oh. Toutes mes copines, elles sont folles. Je sais même plus si c'est leur faute à elles ou celle des hommes. Elles font toute ma psychanalyse et ont un diplôme en dressage quand je vois les chiens qu'elles canalisent. Oh, mes copines, elles sont toutes extra lucides et elles ont toutes une fois ou deux déjà songé au suicide. Fuck. Pyjama party tous les soirs. Mes copines sont pyjama party tout le soir. Mes copines sont des superstars, des superstars, des superstars, des superstars, des superstars. Mes copines sont des superstars.
Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, vous écoutez On se lève et on se casse. On est toujours en direct sur le 93.9 FM. On arrive dans cette partie 3 de l'émission. On va essayer de parler de, un peu des autrices de BD face à cette industrie. En 2010, il y a une étude de l'ABCD qui est donc un organisme qui mesure un peu ce qui se passe dans cette industrie, qui estimait que seulement 12% des autrices de BD en France étaient des femmes. Ça, c'était en 2010. Et ensuite, en 2016, il y a une enquête des états généraux de la BD qui pointe une féminisation accrue, 27% de femmes parmi les réponses de leur enquête. Est-ce que vous avez l'impression, de votre côté, qu'il y a des efforts qui sont faits pour la représentation des femmes dans la BD et dans la promotion de leur travail?
Alors déjà, je serais un peu curieuse de savoir, est-ce qu'ils ont pris en compte dans ces pourcentages uniquement les personnes rémunérées en tant qu'auteurs et autrices de BD, ou est-ce que ça comprend y compris les personnes qui ne sont pas rémunérées? Parce que ça pourrait donner des chiffres différents.
De ce que j'ai vu, c'est les autoristes publiées.
Je serais assez curieuse de savoir justement en quoi ça pourrait changer ces pourcentages-là, autour de moi, je continue quand même à avoir beaucoup de femmes très talentueuses qui n'arrivent pas à être publiées. Mais oui, il y a un vrai mieux qui s'est fait très rapidement là, en l'espace de 10-15 ans, où il y a de plus en plus de place pour les autrices, et ça c'est notamment grâce aux lecteurs et lectrices qui nous suivent sur les réseaux sociaux, parce que vraiment nos lecteurs sont venus nous chercher avant les éditeurs. Les éditeurs voulaient pas nous donner notre chance, voulaient pas donner d'argent, et en fait les lecteurs ont dit mais nous on veut lire ça, et ils ont un peu tordu le poignet des éditeurs, et donc ça c'est super. Donc je pense qu'on est aussi beaucoup à se sentir avoir un sentiment de sympathie, voire de redevabilité envers nos lecteurs. On sait qu'on leur doit beaucoup. Et oui, il y a une vraie évolution, et notamment grâce à de la solidarité féminine les dernières années, où on sent qu'il y a de plus en plus de femmes qui essayent de promouvoir le travail de leurs collègues, notamment femmes. Je sais que c'est Tamos le Thermos, qui est une collègue à moi sur Instagram, qui dit tout le temps « achetez et lisez des BD de femmes ». Et en fait ça reste encore minoritaire, enfin, en fait c'est les femmes qui achètent les BD de femmes, il y a encore, ça à faire, mais il y a aussi des événements qui se créent, qui sont tout récents. Par exemple, il y a le festival d'Angoudou qui a été créé à Paris en réponse à la polémique sur Bastien Vivès au festival d'Angoulême. Il y a aussi le Pop Woman Festival qui existe, je crois que c'était la quatrième année cette année, qui met en valeur le travail des autrices et des réalisatrices et des femmes dans la pop culture. Et en fait, les femmes qui sont derrière l'organisation de ces festivals, elles font un travail, un vrai travail de diffusion qui est vraiment très chouette.
Quand vous dites que les... Enfin, moi, je ne connais pas particulièrement ce rapport de force. Quand vous dites que, par exemple, les gens qui vous suivent sur les réseaux ont réussi... Enfin, et les gens qui suivent des autrices, en général, féminines sur les réseaux, ont réussi à un peu tendre le poignet aux maisons d'édition en leur disant « Mais nous, on veut lire ça, alors publiez ça. » Comment ça se passe? Est-ce que, du coup, est-ce que vous savez si les maisons d'édition, elles ont de moins en moins d'achats sur les choses qu'elles publient? Et donc, elle voit qu'il y a certaines autrices indépendantes qui ont de plus en plus de followers, et elles vont de ce côté-là. Comment se...
Alors, malheureusement, je pense que non. Enfin, en fait, il y a un vrai marché pour la BD ultra réac, ultra misogyne, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment des baisses. Enfin, on a vu qu'il y a des BD qui sont sortis récemment hyper problématiques et qui se vendent encore très très bien. En revanche, il y a un nouveau marché qui est ouvert. Et en fait, quand je dis qu'ils tordent un peu le poignet aux éditeurs, ou en tout cas, ils les motivent à lancer des nouvelles collections, par exemple, en fait, c'est pas par grandeur d'âme des éditeurs. Enfin, les éditeurs, c'est pas parce qu'ils sont soudainement devenus féministes. C'est parce qu'ils voient que c'est bankable, en fait. Il y a un marché pour ça. Donc maintenant, en revanche, ils se gênent pas pour faire une image là-dessus. Et pour montrer que, cette collection ou cette petite... En fait, ce qu'ils font beaucoup, c'est qu'ils créent des petites maisons d'édition qui ont l'air d'être des maisons d'édition débutantes ou indépendantes, mais qui, en fait, appartiennent à des méga grands groupes. Et en fait, elles sont souvent spécialisées justement sur les sujets féministes, écolo, antiracistes, woke de manière générale. Et voilà. Et en fait, c'est parce qu'il y a un marché.
Et donc, vous disiez tout à l'heure que vous aviez... Que votre histoire avec la maison d'édition, c'est un peu une success story que vous ne la vendriez pas à n'importe quelle autrice qui souhaiterait être publiée parce que ce n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe en réalité. Donc, vous n'avez pas rencontré d'obstacle particulier en tant qu'autrice féministe pour publier ces planches-là qui étaient à l'origine un blog ?
Alors... oui et non. Alors sur le blog, comme je le disais, j'ai plusieurs maisons d'édition qui m'ont fait des propositions. En revanche, après, au moment de la publication, oui, j'ai rencontré des difficultés, notamment sur le contenu. Par exemple, j'ai tout un chapitre sur femmes, police et justice où je retrace des histoires de procédures Bayon. Et à la base, sur mon blog, c'était des exemples réels. Où je retraçais, en fait c'était de l'actualité, donc je suivais des procès qui étaient en train d'avoir lieu, ou en tout cas des affaires juridiques qui étaient lancées, et avec des exemples réels en citant les perpétrateurs. Et en fait la maison d'édition s'est pas passée. Donc là on a eu de la grosse négociation et on a été obligé de tout pseudonymiser. Hyper enrageant et hyper ironique parce que je parlais des procédures Bayon et qu'en fait on m'a obligée à reformuler et à censurer toutes les choses réelles dont je parlais au sujet des mecs qui intentaient des procédures Bayon aux femmes pour les faire taire. Donc vraiment ça m'a rendue un peu chèvre et on a passé vraiment des semaines de négociations d'aller-retour avec la maison d'édition. Donc voilà, donc j'ai quand même rencontré des difficultés sur le traitement des sujets. Et par ailleurs il y a un autre scénario justement de roman graphique sur le monde de l'art que j'ai écrit, notamment les VSS dans le monde de l'art, et que j'ai envoyé pour la première fois maison d'édition je crois fin 2019 au début 2020. Et à l'époque, en fait, il y a plein de maisons d'édition qui m'ont dit « Ah, c'est super, mais c'est trop radical. » Et entre-temps, là, maintenant, j'ai réussi à le vendre parce qu'en fait, en 4 ans, les choses ont évolué. Et que là, la même maison qui m'a dit « C'est trop radical », ils m'ont dit « Ah, maintenant, en fait, on se dit il y a la place pour ça. ça peut... En fait, il y a même de la demande pour ça. Ils ont moins peur d'effrayer. En fait, à la base, ils se disaient « C'est trop radical, il ne va pas avoir de lecteur, en fait, pour ça. » Et voilà. Donc, mais ce qui fait que j'ai quand même eu plein de retours me disant non, ça c'est trop radical. Et puis j'ai eu des retours aussi vraiment de vieux schnock qui étaient extrêmement sexistes et rétrogrades.
Aussi. Ils sont aussi présents dans les maisons d'édition. D'accord, très bien. Maintenant, j'en viens à l'affaire Bastien Vivès, que vous avez évoqué rapidement tout à l'heure, et à l'annulation de son exposition à Angoulême en 2022. Donc, pour recontextualiser un peu, décembre 2022, c'est un BDiste qui avait eu une exposition qui lui était consacrée dans le cadre du Festival international de la bande dessinée à Angoulême en 2023. Une vague d'indignation avait alors déferlé sur Internet, où des accusations étaient formulées à son encontre, notamment l'apologie de l'inceste, l'éloge de la pédopornographie et de la culture du viol. Et en raison d'anciens albums humoristiques et pornographiques dans lesquels ils étaient représentés des enfants. Finalement, pour des raisons de sécurité, je cite, « L'exposition avait été annulée par le Festival d'Angoulême. Aujourd'hui, il a été renvoyé en procès pour diffusion d'images pédopornographiques en février dernier. » Cette décision du parquet donc, fait suite à une enquête préliminaire pour diffusion d'images pédopornographiques ouverte en janvier 2023 à la suite d'une plainte de plusieurs associations de protection de l'enfance. L'annulation de l'exposition de Bastien Vivès, ça a été d'un côté une victoire pour les féministes qui dénonçaient la complaisance du milieu de la BD envers un auteur connu pour des œuvres qui sexualisaient des mineurs. Et pourtant, ça a déclenché aussi un énorme backlash parce qu'il y a eu plusieurs auteurs qui ont notamment parlé de prétendue censure féministe. Comment vous analysez cette affaire avec un peu de recul, enfin très peu de recul quand même, c'est assez récent, mais est-ce qu'elle dit de l'industrie de la BD aujourd'hui quand même? Parce que même s'il est ouvert, quand on voit cette affaire, on se dit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de marge de progression.
Ça va être difficile pour moi de répondre succinctement à cette question.
On a encore du temps.
En fait, c'est un sujet auquel j'ai pas mal réfléchi et j'ai notamment fait mon mémoire de sociologie sur les débats internet au sujet de la pédopornographie virtuelle. Donc c'est vraiment exactement dans mon sujet d'étude. Enfin, ça fait vraiment écho à ça.
Ouais.
Ce que je dirais, c'est alors déjà parce que la réaction du festival d'Angoulême a été lamentable et que la réaction de Bastien Vivès aussi a été lamentable. Enfin, sans parler même de la production à la base, le fait qu'il y ait à ce point pas d'écoute et d'empathie envers les personnes qui viennent dire non mais en fait pour moi c'est horrible, ces BD, ça fait écho dans ma vie à des choses difficiles, ça a joué un rôle dans ma vie sur les agressions que j'ai vécues ou sur la manière dont je peux les concevoir, etc. Le fait qu'il y ait zéro écoute là-dessus. Zéro remise en question et que ce soit juste un sujet. Enfin, en fait, on renvoie les personnes qui disent ça à de la sensiblerie ou à du moralisme. En fait, je trouve ça super nul parce que, à côté de ça, ça pose des questions qui sont vraiment intéressantes. Et je trouve que, en fait, c'est vrai que cette polémique, ce débat précis, il illustre une espèce de bataille entre l'ancien monde et le nouveau monde, en tout cas un clivage politique ou une polarisation en fait, mais je trouve que ça serait réducteur de le réduire à ça, parce que en réalité ça soulève plein de questions qui sont extrêmement complexes et c'est pas délirant de parler de liberté d'expression et de le rôle de la fiction sur la barrière qu'on met entre la moralité et la légalité. Est-ce qu'il faut légiférer sur ces sujets? Est-ce qu'on peut condamner sans légiférer? En fait, en réalité, ça pose vraiment des questions très complexes. Donc oui, en fait, je pense que ça serait dommage de réduire.
D'accord. On va faire une courte pause chronique parce que c'est le moment qu'on attend tous. C'est le moment de la chronique d'Alice. Salut Alice. Donc, comme dans tes anciennes chroniques, tu continues à nous faire découvrir les autrices lauréates du prix Nobel de littérature. Et aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir la cinquième femme à avoir obtenu ce prix. Dans quel pays tu nous emmènes cette fois?
On s'envole pour le Chili, découvrir la poétesse Gabriela Mistral. Alors, c'est en 1945 qu'elle est lauréate du prix Nobel. Et c'est d'ailleurs la première poétesse à l'obtenir et la première écrivaine d'Amérique latine, hommes et femmes confondus.
Encore une femme passionnante donc.
Et oui, alors Gabriela, elle naît en 1889 au nord du Chili. Elle est fille d'un instituteur et elle a 3 ans quand son père, il abandonne sa famille. Du coup, on l'a déjà vu chez les autres autrices du Nobel, ça freine ses ambitions scolaires. Elle arrive à aller à l'école jusqu'à ses 14 ans. Et ensuite, elle est obligée de devenir aide-institutrice pour gagner sa vie. Elle commence en parallèle à écrire pour des journaux locaux sur des thèmes tels que l'éducation des filles. Dès 1908, elle publie ses premiers poèmes. Et en 1914, elle remporte son premier prix. C'est à ce moment-là qu'elle choisit le pseudonyme de Gabriela Mistral.
Et pourquoi elle a choisi de s'appeler comme ça ?
C'est la composition en fait, de ses deux poètes favoris, Gabriele D'Annunzio et Frédéric Mistral. C'est une des grandes plumes de la poésie chilienne et elle a aussi une carrière en tant que consul du Chili à l'étranger. Et enfin, son visage est sur les billets de 5000 pesos.
Et si elle a une carrière politique, c'était une femme engagée donc?
Oui, alors elle s'engage en faveur de l'éducation des femmes, de la défense des paysans et des peuples autochtones. Par contre, elle ne se considérait pas comme féministe parce que en fait, le mouvement féministe chilien de l'époque était porté par les femmes bourgeoises, qui est un milieu en fait, dont elle était très éloignée. Mais aujourd'hui, les féministes chiliennes, elles redécouvrent Gabriela Mistral en tant que figure féministe moderne, mais aussi en tant qu'icône queer. Il y a aujourd'hui en fait un vrai engouement autour d'elle qui s'est développé ces dernières années au Chili. Ses poèmes, ils sont engagés, critiques envers la société dans laquelle elle a évolué et reflètent les causes qu'elle a soutenues. Elle meurt à New York en 1957 et le gouvernement chilien décrète 3 jours de deuil national à son décès.
Elle était très reconnue de son vivant en fait.
Ben oui, si on la connaît peu en France, en fait c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup été traduite. Par contre, dans le monde hispanophone, elle est considérée à l'égal de Pablo Neruda, qui a eu lui aussi le prix Nobel.
Et t'as réussi à lire un de ses recueils?
Oui, son recueil Tala, ou Essar, pour son titre français. Il a été publié en 1938 et traduit en français seulement en 2021. Et ça, c'est grâce à la volonté et au travail d'Irène Guéraud, poétesse, traductrice et maîtresse de conférences en littérature comparée à Sorbonne Université. J'ai découvert son style, en fait, qui est dans une très très grande musicalité. C'est un recueil qui est en partie un hommage à sa mère décédée et qui du coup est marqué par la douleur et la nostalgie. Il y a beaucoup de références culturelles, de la Grèce antique, de la religion chrétienne et la culture autochtone. Et j'ai parcouru avec elle l'Amérique latine, ses paysages et surtout ses portraits de femmes qui sont au centre de sa poésie. Et j'y ai découvert un style qui est à la fois simple et moderne, extrêmement riche et sensible, et surtout qui va droit au cœur. Alors pour ce passage au printemps, quoi de mieux pour nous reconnecter à la nature et à nous-mêmes en lisant quelques poèmes de Gabriela Mistral ?
Ben, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Merci. Il y a quoi de nous mettre dans l'ambiance ? Merci Alice. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck. Girl in the hallway waiting for ya. Mini skirt and my go-go boots. I just want you to make a move. So slow down, sit down, it's new. I just want. Écoutez toujours On se lave et on se casse. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris en direct et on est toujours avec Erel Anna, l'autrice de la BD, toujours en librairie. Ils abusent grave, coécrite avec l'illustrateur Fred Cham. Il nous reste 7 petites minutes pour cette émission et une de mes dernières questions, c'était est-ce que pour vous, la BD féministe, elle réussit dans là où d'autres supports comme les essais, les documentaires ou les campagnes de sensibilisation, surtout du gouvernement, échouent notamment auprès des jeunes publics. Par exemple, en termes de sensibilisation sur les VSS, sur la justice, sur peut-être pas. Hein.
Je pense que c'est un travail commun. Ouais. Je pense qu'on est beaucoup à œuvrer dans des médiums très différents les dernières années. C'est bien qu'il y en ait dans la BD, c'est bien qu'il y en ait dans le docu. Il y a même des gens qui font du travail par la danse de sensibilisation aux VSS. En fait, on avance tout ensemble, j'ai l'impression.
Ouais, non. En fait, moi, ma question, c'était plus par rapport au biais officiel des campagnes de sensibilisation, parfois, du gouvernement. J'ai l'impression qu'en fait, ces BD-là, elles aident à sensibiliser sur tout un tas de sujets, sur des choses et des sujets qui ne passent pas forcément très bien auprès des jeunes publiquement. Par exemple, je fais de l'éducation aux médias sur ces sujets-là. Okay. Et j'ai l'impression que... que par les médias style le journalisme, quoi, les journaux, etc. C'est des sujets qui ne passent pas forcément. Ou en tout cas, ça ne pénètre pas, quoi. Ils n'arrivent pas à vraiment passer là-dessus. Et la BD, j'ai l'impression que ça peut arriver à toucher ce public-là d'une manière différente. C'est un peu ce qu'on disait. C'est peut-être que, du coup, les histoires et...
Mais après, j'ai l'impression que peut-être le journalisme, quand il essaye de rester très factuel et de ne pas rentrer dans le témoignage, il manque peut-être parfois de dimension. Par exemple, amener en journalisme la question de la charge mentale sans les exemples qu'avait amené Emma, etc. En fait, c'est elle qui a vraiment diffusé cette idée, qui a fait connaître le concept. Et après, il a pu être repris par des journalistes. Mais je ne suis pas sûre qu'il aurait pu devenir aussi connu, aussi compris dans une large population s'il n'avait pas été illustré.
Est-ce qu'il y a des thématiques que vous aimeriez voir émerger davantage dans les BD féministes de nos jours qui sont encore peut-être pas trop abordées?
Alors, il y a à la fois des thématiques et des regards. C'est-à-dire qu'en regard, on manque encore de BD qui sont produites par des personnes qui viennent de milieux populaires, par des personnes racisées. Ça reste encore... pas assez inclusif au niveau du... En fait, moi, j'ai envie d'avoir accès à des BD qui nous donnent plein de perspectives différentes. Et voilà, donc je trouve que ça manque un peu. Et après, sur les sujets, j'ai envie de dire, le féminisme, c'est à la fois un sujet et une grille de lecture. Mais ce qui fait que, en fait, on peut tout aborder avec une lunette féministe. Et en fait, moi, maintenant... Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des VSS parce que c'est notre urgence et aussi parce que actuellement, notamment sur le domaine de l'intimité, de la vie conjugale, relationnelle et sexuelle, les dernières années, c'est un gros terrain de lutte et de combat pour nous en tant que féministes. Mais je pense que malheureusement, on est obligé de continuer parce que ça n'avance pas assez. Donc, on est obligé de continuer, mais il y a une part de nous, on en a marre. Enfin, on a envie d'aborder aussi d'autres sujets. Et moi, ce que j'ai aussi envie de voir, c'est de voir des femmes qui parlent de leur passion, de leur hobby, ou de géopolitique, d'économie. Mais qu'est-ce que c'est de parler de ça en tant que femme? Qu'est-ce que c'est de parler de ça en tant que féministe? En fait, j'aimerais qu'on puisse avoir l'espace de parler d'autre chose que des VSS. Malheureusement, on est encore beaucoup obligé de le faire. Mais par exemple, récemment, j'ai lu une BD de Katie Beaton, qui est une autrice américaine et qui s'appelle en français « Environnement toxique », où elle retrace son expérience en tant que manutentionnaire dans une zone de forage de gaz de schiste dans le nord de l'Amérique ou le sud du Canada, je ne sais plus. Et en fait, j'ai trop envie de savoir en quoi ça consiste. Et le problème, c'est qu'elle se retrouve à parler quasiment que du harcèlement qu'elle a vécu là-bas, parce que c'était ça son quotidien. Et en fait, c'était tellement omniprésent, elle était tellement harcelée par tous les mecs, parce qu'elle c'était une des rares femmes qui travaillait sur place, que ça prend une place énorme dans la BD. Et d'un côté, ça m'intéresse vachement d'apprendre ça, et de l'autre, ça me fait rager. Mais moi, j'aurais aimé savoir comment elle fait avec les machines, et comment c'est... Enfin, et en fait, j'aurais aimé qu'il y ait plus de place pour autre chose. Mais pour ça, il faut que les mecs ils nous laissent de la place pour autre chose, en fait.
Et du coup, est-ce que quand on voit qu'il y a beaucoup de BD féministes qui ont eu un succès commercial comme Peau d'homme, les culottés de Pénélope Bagieux, ces BD-là, comme la vôtre, elles ont eu un succès commercial important quand même. Est-ce que il y a un public qui est prêt pour plus de BD engagées encore que maintenant?
Oui, je pense de plus en plus et justement qui se diversifie actuellement. Je pense qu'il n'y a pas de débat ou de clivage à avoir. C'est bien qu'il y ait de la BD qui raconte des histoires de cow-boys. C'est bien qu'il y ait de la BD qui raconte des histoires de space opéra dans l'espace. Il y en a aussi des BD féministes engagées. Il y a des essais sur des sujets ultra pointus. Et en fait, il y en a pour tous les goûts. Et on n'a pas besoin de se faire la guerre, en fait, entre les différents styles. C'est bien qu'il y en ait pour tout le monde.
C'est un bon mot de la fin. C'est la fin de cette émission, malheureusement. Merci beaucoup à notre invité, à vous, Erelana, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre BD est toujours disponible en librairie. Ils abusent grave, les éditions Les Insolentes achètent. Merci encore de vous être joints à nous. Merci à nos chroniqueuses Chloé et Alice et à notre réalisatrice Gabrielle. Merci à toutes de nous avoir écoutés. On revient le 15 avril prochain. On vous tient au courant du thème sur les réseaux sociaux très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut! We'll